sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, sur le 107 de la bande FM ou sur radiobarthas.net. Merci d'être à l'écoute, on va passer un petit moment ensemble pour évoquer ce qu'il se passe par ici en Lozère. On ira notamment à Mende où va s'ouvrir un lieu unique dans le département, un centre du bien vieillir. Et en parlant de vieillir, on évoquera une figure légendaire lozérienne, celle de la vieille morte. Mythe local mais pas que, car il se retrouve dans de nombreuses cultures ailleurs dans le monde, au Québec par exemple. Pas sûr, mais en tout cas, nous irons par là aussi pour nous préparer à l'ouverture très prochaine du festival Vue du Québec. Voilà le programme de ces poussières du jour.
Midi et des poussières sur Radio Barthas.
En Lozère, plus d'un tiers des habitants ont plus de 60 ans et près d'une personne sur deux de plus de 80 ans vit seule. Pouvoir vieillir chez soi à domicile, c'est une volonté qui est largement partagée par les aînés et par leurs familles, mais c'est aussi un enjeu majeur de santé publique car les places en maison de retraite ne sont pas illimitées et elles représentent surtout une charge financière que tous ne peuvent se permettre. Le problème, c'est que les logements sont souvent inadaptés au vieillissement et à la perte d'autonomie qui en découle. Alors pour répondre à ces enjeux, pour apporter des solutions concrètes et immédiates permettant à chaque senior de pouvoir continuer à vivre chez soi en toute sérénité, la fédération ADMR, Réseau Associatif de Services à la Personne, inaugure un centre du bien vieillir. Ce centre prend la forme d'un appartement pédagogique, pensé comme un appartement réel qu'on peut visiter de la cuisine à la chambre, en passant par la salle de bain, on peut ouvrir le four, les placards, manipuler tout type d'objets et ainsi tester plus de 100 aides techniques visant à faciliter le quotidien. Ce centre, il est situé au 1C boulevard Théophile Roussel à Mende donc. Il ouvrira ses portes au public dès le lundi 13 avril et les horaires d'ouverture ce sera de 9h à midi et de 14h à 16h30. Et j'ai eu l'occasion de le visiter lors de son inauguration officielle où plusieurs démonstrations ont été proposées. Reportage.
Entrez, entrez, venez, il y a de la place. Vous aurez après tout le loisir de visiter, tout le temps.
Alors plutôt que d'expliquer ce qu'est la perte d'autonomie, nous vous proposerons de le ressentir. Pendant quelques minutes, vous allez pouvoir vous mettre à la place de ceux et celles qui au quotidien rencontrent les difficultés dans les gestes importants de la vie. Cuisiner, bouger, lire, manipuler les objets. L'objectif est très simple. Comprendre les difficultés de chacun, mais aussi découvrir qu'il existe des solutions. Ce que vous allez expérimenter maintenant, c'est précisément ce que nous proposons dans ce centre, un lieu pour tester, comprendre, comparer et surtout anticiper.
On va imaginer qu'avec l'avancée en âge, vous avez des faiblesses musculaires au niveau des jambes, en plus des douleurs au niveau de vos épaules.
Aussi.
Voilà. Donc, je vous en prie, si vous voulez bien prendre place dans le fauteuil. Allez. Hop. Et là, une situation très commune. Il est midi, presque là. On a faim. Et vous êtes en train de faire votre repas. Je vous en prie, essayez de mélanger. C'est compliqué. On voit que les hauteurs des plans de travail ne sont pas toujours adaptées à la bonne hauteur. Nous, on a installé un dispositif qui est électrique. Monsieur Roy, vous me dites quand c'est bon. Voilà. Alors, tout le monde n'aura pas forcément la possibilité d'installer ce dispositif. En revanche, ils peuvent venir tester, voir exactement la hauteur qui leur convient le mieux. Et dans le cadre, par exemple, du réaménagement de leur cuisine, pouvoir voir exactement la hauteur.
Magali Jourdan, directrice de la Fédération ADMR de Lozère.
Donc là, on est dans une salle de bain qui a été reconstituée et qui est donc adaptée pour faciliter l'usage pour des personnes vieillissantes.
Tout à fait. L'idée, c'est de montrer un petit peu ce qui peut se faire à partir de l'existence, c'est-à-dire on part à partir de sa salle de bain et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors toujours, on pense il faut changer la baignoire pour mettre une douche. Ce n'est pas forcément la meilleure solution et c'est ce qu'on veut montrer ici. Il y a des solutions qui, à moindre coût, peut-être il est plus utile d'aménager sa baignoire avec une barre et ce sera peut-être plus facile à utiliser qu'une douche trop petite ou fermée. Mais ça, c'est chaque cas qui est différent et l'idée, c'est de se projeter et trouver la bonne solution. Ce lieu, il se veut aussi un lieu dédié à la prévention et nous allons organiser des ateliers de prévention par rapport à la nutrition, par rapport aux chutes, par rapport à tout un tas de thématiques importantes pour bien vivre à domicile.
Sur la question du coût, justement, vous l'avez évoqué, il y a des choses qui peuvent coûter un petit peu cher. Par exemple, on a vu dans la démonstration ce plan de travail dans la cuisine qui peut se baisser. Ça a un certain coût. Qu'est-ce qui peut exister pour accompagner financièrement les personnes pour ces aménagements ?
Donc, il existe des aides. Donc, le but du jeu aussi, c'est d'orienter vers les aides possibles pour justement financer ces équipements.
Ça sera aussi le rôle de ce centre ici.
Voilà, on indiquera quelles sont les aides possibles, effectivement.
Janine Osti, vous êtes bénévole auprès de l'ADMR depuis 40 ans. Vous êtes aussi la trésorière départementale de l'association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance que représente pour vous ce centre, l'ouverture de ce centre ?
Mais moi, je tiens beaucoup à ce que les gens restent à domicile le maximum de temps. Et il est vrai qu'on trouve des difficultés tous les jours. On trouve des difficultés tous les jours, justement, pour leur confort. Mais par cette méthode-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent agrémenter leur séjour pour eux et leur famille.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'adaptations ou d'outils qui, selon vous, sont très utiles à mettre en place quand on vieillit chez soi ?
Il y a déjà le four. Le four, moi, je trouve qu'il est très bien avec la porte qui peut se glisser sous le four pour sortir les ustensiles, les casseroles qui sont souvent très lourdes.
Et vous vous imaginez mettre en place ce genre d'aménagement chez vous dans le futur ?
J'y serais sûrement obligée parce que j'ai des difficultés avec les membres supérieurs, moi. Et effectivement, les placards qui se baissent, là, c'est très pratique pour pouvoir prendre les choses. Parce que chaque fois, je baisse d'une étagère, mais des fois, il manque des choses qui sont un peu plus hautes, quoi.
Et il y a une question qui se pose quand même, c'est celle du coût, parce que ces aménagements-là, c'est pas, voilà, ça coûte quand même cher de tout réadapter chez soi. Comment est-ce que vous envisagez ça ?
Mais je trouve que c'est bien moins cher que de payer un mois en maison de retraite pendant toute une année, parce que les maisons de retraite, c'est quand même cher. Alors il vaut mieux aménager son chez-soi et en profiter pour avoir toujours le lien social qu'on a et familial. Parce que, bon, en étant à domicile, moi je me suis aperçue depuis longtemps que quand les personnes rentrent en institution, la famille s'éloigne, surtout les petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Bonjour, Xavier Marette, directeur départemental de l'Agence régionale de santé ici en Lozère.
Sur cette question donc de l'enjeu du maintien à domicile, au-delà de ce que ça peut apporter à la personne concernée, qu'elle reste proche de sa famille, qu'elle reste dans un environnement familier, plus dans un contexte de santé publique, en quoi est-ce que c'est un enjeu important aujourd'hui, sachant que voilà, la population vieillit en France partout, pas qu'en Lozère ?
Alors, le maintien à domicile, comme vous l'avez dit, c'est un enjeu avant tout pour la personne et pour respecter les souhaits de la personne. C'est aussi un enjeu quand on regarde globalement l'offre d'équipements pour accueillir la personne âgée, que ce soit en EHPAD, en résidence autonomie, dans les différentes structures, où en fait on sait qu'avec le vieillissement de la population, en fait le nombre de places qu'on a dans les différents départements, mais ici en Lozère également, va forcément être mis en tension. Il va y avoir plus de demandes pour une offre qu'on fait évoluer, mais qui ne répondra pas forcément. Donc il y a aussi un enjeu en fait d'assurer que l'EHPAD puisse être le lieu pour les personnes qui en ont le plus besoin, donc qui ont le niveau de dépendance le plus élevé, et que les personnes qui sont les plus autonomes puissent, parce que c'est aussi leur souhait, rester à leur domicile. Donc là, il y a un premier enjeu de santé publique. Après, on sait également que dans la santé publique et dans toutes les politiques de prévention, rester à domicile, c'est aussi être potentiellement plus actif, parce que vous allez faire vos courses, parce que vous sortez, parce que vous avez des relations sociales. C'est voir plus de monde. Et ça, ce facteur des relations sociales, il est primordial dans le maintien de l'autonomie et du bien-être de la personne. Et donc, le maintien à domicile, c'est aussi quelque chose qui permet de vieillir plus longtemps et surtout de vieillir plus longtemps en bonne santé.
Volver a los 17, Después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento. Cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño. Y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana. Al son de su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín al cielo le puso arete. Y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Volver a los 17 después de vivir un siglo, retrouver ses 17 ans après avoir vécu un siècle. Ce si beau morceau de la grande musicienne chilienne Violeta Parra qui joue avec l'idée d'un rajeunissement, un rajeunissement métaphorique, spirituel, celui que permet l'amour pur et sincère. Je vous lis la traduction du dernier couplet de la chanson. La fenêtre s'est ouverte en grand comme par enchantement. L'amour est entré avec son manteau, il a fait pousser le jasmin, volant comme un séraphin. Mis ses des boucles d'oreilles au ciel et le chérubin m'a redonné mes 17 ans.
Midi et des poussières.
Et maintenant, je vais vous parler d'une figure qui n'a pas 17 ans et qui a bien plus d'un siècle. C'est une figure mythologique très ancienne qui se transmettrait oralement depuis le néolithique en Lozère, en Cévennes et bien plus loin. C'est la figure de la vieille, la légende de la vieille morte. Si vous ne la connaissez pas, eh bien je vous invite à aller écouter Jean Fossard qui lui consacre une conférence ce vendredi à la Ronceret à Saint-Laurent-de-Trèves et il lui a consacré aussi, pour ainsi dire, sa vie. Depuis plus de 30 ans, il mène des recherches sur cette figure légendaire. Et je l'ai appelé ce matin pour lui demander comment il l'avait rencontrée, la vieille. Alors la ligne n'était pas très bonne depuis la Cham des Bondons, là-haut, là où il vit, parmi les menhirs. Donc tendez l'oreille.
Oui, alors la vieille, c'est un être surnaturel, si vous voulez, que j'ai découvert en allant aux archives départementales de la Lozère. C'est parce qu'il y avait un archiviste de Mende qui en parlait il y a une cinquantaine d'années. Et je me suis intéressé à ce personnage. Et en fait, j'ai découvert qu'il est présent dans toute la toponymie de la Lozère, dans tous les noms de lieux de la Lozère. Et en plus, il est associé à des légendes d'une vieille qui porte des menhirs. Par exemple, le menhir de la vieille morte, notamment, mais aussi le menhir de Grisac, mais aussi le dolmen de Lomède, qui est sur le cause de Sauveterre, ou le dolmen de Bramonas, qui est lui aussi sur le cause de Sauveterre. En fait, c'est une vieille qui se promène avec des mégalithes. Qui porte des mégalithes. Et en fait, cette vieille, moi, ça fait 32 ans que je fais des recherches dessus. En fait, j'ai découvert qu'elle est partout présente, dans le monde entier, mais vraiment dans le monde entier. Elle fait la même chose au Danemark, elle fait la même chose en Écosse, elle fait la même chose en Corée, elle fait la même chose en République russe, enfin en Kakhatchie, elle fait la même chose au Japon. Elle porte des menhirs. Et c'est tout le temps la même vieille, si vous voulez.
Et elle représente quoi, alors, cette vieille qu'on retrouve dans plein de cultures à travers la planète?
Elle représente la terre-mère, en fait. C'est une représentation de la terre-mère par une vieille femme géante. La terre-mère, c'est pour moi qui l'a inventée, hein. C'est Frédéric Mistral qui en parle dans son dictionnaire. Il dit que la vieille, c'est le nom par lequel le peuple de Provence désigne la nature ou l'antique Cybèle. Et on retrouve aussi la vieille dans les écrits de Jean Pouet, qui était un folkloriste occitan, qui dit que la terre d'Oc est appelée la vieille par les provençaux et les langues de science. C'est-à-dire que c'est la terre-mère, en fait. La Pachamama, si vous voulez, ou la Mother's, enfin, voilà.
Et donc, vous avez enquêté dessus depuis plus de 30 ans. Comment est-ce que vous avez fait? Vous avez épluché les archives, vous êtes aussi allé collecter auprès des habitants, des Lozériens, des Lozériennes. Vous êtes allé aussi ailleurs qu'en Lozère?
Oui, j'ai fait, dans 32 ans, j'ai fait une dizaine de pays plusieurs fois. Quoi. Je suis allé 8 fois en Grèce, 3 fois en Écosse. Enfin, un peu partout, si vous voulez, j'ai fait une dizaine de pays. Mais j'ai surtout consulté des cartes géographiques, des cartes d'état-major. Parce que la vieille est partout présente, si vous voulez. Vous prenez une carte des îles britanniques, par exemple, et puis vous allez trouver la vieille à un moment. Ça va être la rivière de la vieille, ou la montagne de la vieille, ou la colline de la vieille. Elle est partout présente. J'ai suivi ce fil conducteur pour trouver la vieille partout. Et donc après, il y avait des légendes qui suivaient automatiquement. Automatiquement, il y avait des légendes derrière.
Et donc c'est le résultat de toutes ces recherches que vous allez présenter demain, donc à la Ronceret à Saint-Laurent-de-Trèves, à l'occasion de cette conférence. Donc vous allez raconter des choses, il y aura aussi des choses à voir ou à entendre.
Ah oui, c'est-à-dire que là maintenant, ça fait un an que je reconnais l'intelligence artificielle, alors on aime ou on n'aime pas l'intelligence artificielle, mais pour moi ça a été un outil terrible, fabuleux, quoi. Ça m'a permis, comme j'ai pas beaucoup d'argent, ça m'a permis justement d'illustrer toutes mes recherches, et donc c'est pour ça que je crée une chaîne YouTube. C'est parce que là, avec l'intelligence artificielle, je produis des images qui sont fabuleuses. Vous verrez demain, quand vous viendrez, vous verrez les images que ça produit, hein. C'est complètement fou, quoi.
On découvrira tout ça demain. Merci beaucoup Jean Fossard pour ce petit avant-goût.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Bonne journée.
Midi et des poussières.
Rendez-vous donc demain, vendredi 10 avril, pour en savoir plus sur cette figure de la vieille et sur les légendes qui la racontent à travers le monde. La Ronceret vous accueille dès 18h30 avec Monsieur Loyal. La conférence commence à 19h et ensuite à 20h, il y aura un verre de l'amitié pour échanger avec Jean Fossard. Et ce sera l'occasion de poursuivre la discussion avec lui sur cette utilisation qu'il fait dans son travail de recherche des logiciels générateurs d'images en utilisant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'IA qui devient alors peut-être co-fondateur co-fabricante du mythe de la vieille, ce qui est à la fois désolant et à la fois intéressant de voir comment ces nouveaux outils s'insèrent dans des légendes et traditions populaires orales qui datent de plusieurs milliers d'années. C'est un peu comme être le témoin de la vivacité d'un mythe qui continue sous nos yeux de s'inventer, de s'auto-générer. Bon, mais là je vais peut-être un peu trop loin, je sais pas.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et oui, il est toujours midi et des poussières sur Radio Bartas. Et tout de suite, place à notre chroniqueur québécois préféré, Julien Boutillier. Salut Julien.
Salut Raphaël.
On rappelle pour celles et ceux qui ne t'auraient pas encore rencontré que tu es journaliste en résidence à La Nouvelle Dimension dans le cadre du festival Vue du Québec. Donc le début est imminent là.
Très imminent, ça s'en vient mardi prochain avec la soirée d'ouverture. Et donc, on débute ça la semaine prochaine, ça s'en vient. Et on va avoir 5 jours complets de cinéma québécois à Florac. Donc, on est très, très excités, très enthousiastes de ça.
Et vous en entendrez aussi beaucoup parler sur cette antenne. Mais pour aujourd'hui, donc, tu nous prépares un peu à être des bons spectateurs de films québécois. Ouais. Et tu viens nous parler de quelque chose d'important, c'est le mouvement souverainiste québécois.
Oui, exactement. Exactement, je voulais te parler de ça parce que c'est un thème qui va être abordé dans le festival. On va parler notamment de l'indépendance du Québec à travers le Front de libération du Québec. Parce que, bon, pour les gens à l'écoute qui sont peut-être pas au courant ou qui des fois pensent que Canada, Québec, c'est un peu des synonymes, ben pas tout à fait. Le Québec a quand même vraiment son identité propre qui est différente de celle du Canada. Et il y a eu, à travers le temps, à travers les époques, plusieurs mouvements pour la souveraineté, l'indépendance du Québec. Un de ceux-là, ça a été le Front de libération du Québec, qui a été peut-être un des plus radicaux. Ça a été dans les années 60-70. C'était un mouvement militant qui a eu recours à la violence pour tenter d'obtenir un Québec indépendant et socialiste. Et donc, on les appelait les membres du FLQ. Ils ont posé notamment des bombes. Il y a eu même des attentats. Et on aura la chance d'avoir au festival Sylvain Garel, qui est un professeur à Paris, qui est spécialisé justement dans le Front de libération du Québec et dans sa représentation cinématographique. Il va animer une séance qui va être vraiment intéressante. C'est le jeudi 16 avril à 21h30 à la Salle des œuvres. C'est gratuit. Il va nous proposer une plongée historique et cinématographique dans l'effervescence politique du Front de libération du Québec en Gaspésie, qui est la région à l'honneur cette année. Donc vraiment, vous allez voir, c'est un événement qui va être très, très, très d'actualité avec notre thème de cette année. Et il y aura au programme là, donc plusieurs films, notamment documentaires, mais aussi de fiction en lien avec le FLQ et le Mouvement pour la souveraineté du Québec. Mais là, je voulais vous proposer peut-être quelque chose d'un peu plus actuel, parce que si vous voulez entendre parler du FLQ, du mouvement de l'époque, Sylvain Garel est la personne tout indiquée pour le faire, ce n'est pas moi. Je m'en remets à lui, mais je voulais vous parler d'indépendance en 2026 parce que presque 50 ans plus tard, l'indépendance du Québec, c'est toujours un sujet d'actualité. Cet été, il y a eu un sondage de la firme Crop qui a montré qu'il y avait une montée spectaculaire du souverainisme chez la jeune génération. C'est 56% des 18 à 34 ans qui sont maintenant favorables à l'indépendance du Québec, donc une majorité pour la première fois depuis de nombreuses années. Donc, pour vous donner une idée, pour les gens qui ne sont peut-être pas familiers avec le contexte politique au Québec, il y a eu 2 référendums sur la souveraineté du Québec. Un premier en 1980, un deuxième en 1995. Celui de 1995 a été extrêmement serré. Ça a terminé à 49,4%. Et des poussières, pour citer le titre de l'émission, 49% à 51%, là, donc c'était extrêmement serré, ce référendum sur la souveraineté du Québec. Et donc, depuis, le mouvement souverainiste a un peu perdu des plumes, battait de l'aile dans les années 2000, c'était un peu plus difficile. Et là, il y a comme un retour qui passe par la nouvelle génération. Et donc, il y a 2 principaux partis politiques en ce moment là, qui promouvoient l'indépendance du Québec. Il y a Québec solidaire, qui est vraiment plus un parti de gauche, et le Parti québécois, qui est le parti historique de l'indépendance du Québec, qui était aussi historiquement un parti de gauche ou de centre-gauche, qui est peut-être un peu en train de se tasser vers la droite, on sait pas trop, peut-être un peu l'équivalent là, de parti de gauche un peu plus historique, là, peut-être comme le Parti socialiste ici, là, donc qui est un peu en train d'être moins là, vraiment ancré à gauche. Et le Parti québécois mène en ce moment donc dans les sondages pour l'élection générale qui aura lieu en octobre. Mais en 2026, cet engouement-là pour la souveraineté au Québec, ben, passe notamment par TikTok, par les réseaux sociaux, par des mimes, par des créateurs, mais aussi par des artistes. Je voulais te parler notamment du rappeur Kinji, qui a seulement 18 ans et qui est vraiment une sensation sur les réseaux sociaux. Kinji, qui est un rappeur qui a commencé justement sur les réseaux sociaux, il a commencé à, je crois, 16 ans dans sa chambre à Gatineau avec son frère qui fait les beats. Et lui, il rappe vraiment son amour du Québec et son désir de voir le Québec devenir un pays. Puis j'ai eu la chance de faire une interview avec lui quand je travaillais à la presse à Montréal. Puis tu sais, il disait, c'est quasiment mal vu pour les jeunes à l'équivalent du lycée ou du collège d'aimer le Canada ou de se ressentir dans le Canada. Il y a quelque chose de très cool en ce moment au souverainisme au Québec chez les jeunes. Et justement, je le disais, il y a des experts qui se demandent justement est-ce que ce mouvement politique va survivre au-delà de la tendance TikTok. T'sais, une fois que ce sera plus trendy sur TikTok, est-ce que ça va encore être cool? Je ne sais pas si on a
on peut l'écouter.
L'extrait, on peut écouter Kinji. Ma fleur préférée, c'est la fleur de lys. Là, c'est Valentin, je lui ai donné une fleur de lys. Des choses illégales, j'en fais pour la fleur de lys. Jean-Christ, c'est un tabarnak, il a volé ma fleur de lys. Ma fleur préférée, c'est la fleur de lys. Donc on est vraiment, c'est ça, dans du rap très assumé. Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses du petit extrait qu'on a écouté?
Ouais, bah c'est vrai que c'est inattendu de prendre en fait un tel symbole qui est la fleur de lys. Déjà en France c'est un peu particulier parce que c'est vraiment le symbole de la royauté. Bon, au Québec c'est pas le même symbole, mais c'est vrai que brandir un symbole comme ça très ancien, en plus là sur la pochette de l'image sur YouTube, c'est une espèce de d'écusson un peu à l'ancienne, donc on s'attend pas forcément à ce que ce soit rappé comme ça.
Exact, et donc oui, il y a une certaine nostalgie, il y a aussi, bon, la fleur de lys au Québec, évidemment un symbole différent, c'est comme le symbole national du Québec, mais oui, donc il dit des choses qui sont quand même assez intenses, assez revendicatrices. Il dit Jean Chrétien, c'est un tabarnak, donc il insulte un ancien premier ministre du Canada, il va vraiment, donc il s'assume vraiment politiquement dans ses chansons, et donc c'est très politisé pour quelqu'un de 16-17 ans de mettre ça sur les réseaux sociaux et d'obtenir un tel succès au point tel qu'il a été invité à la télé, à plusieurs émissions, notamment Tout le monde en parle, bon, qui est une émission qui existait en France, qui existe encore au Québec, mais qui est comme un grand rendez-vous du dimanche soir à la télé publique, à Radio-Canada. Il a été invité là avec d'autres artistes, notamment Lou-Adrienne Cassidy, qui est une chanteuse qui a un très grand succès au Québec, qui s'est elle-même aussi prononcé en faveur de l'indépendance du Québec, et Mounir Kadouri, qui est un créateur de contenu. Et donc, on sent vraiment un certain engouement chez les jeunes, mais comme je le disais, bon, plusieurs politologues se demandent est-ce que ça va vraiment durer, parce qu'on sait ce qui est populaire sur les réseaux sociaux, ce qui est populaire dans ces tendances-là. Des fois, ça peut être bien éphémère. Est-ce que vraiment, rendu au moment du vote, les jeunes vont vraiment, de un, aller voter, parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes chez les jeunes au Québec comme ailleurs, de deux, voter pour un parti indépendantiste, et de trois, se rendre à ce qui est un référendum, à ce qui est vraiment l'indépendance, on est loin encore. Mais comme je te le disais, donc il y a des élections au Québec en octobre 2026. Je t'ai sorti les plus récents sondages. Le Parti québécois, donc le parti historiquement en faveur de l'indépendance, mène à 33%, mais il est suivi de près par le Parti libéral, qui est un parti donc fédéraliste, à 31%. Donc on est dans la marge d'erreur. Reste à voir, est-ce que le Parti québécois va l'emporter? En ce moment, ils auraient tout juste assez de sièges pour avoir une majorité, mais si on ajoute Québec solidaire, donc qui est le parti de gauche, qui est aussi souverainiste, on serait capable d'avoir une majorité. Est-ce que ce sera vraiment suffisant pour déclencher un troisième référendum et gagner ce troisième référendum? Selon la plupart des experts, on est encore loin de ça, mais il y a un engouement qui monte, et la preuve, c'est que tout récemment, le mois dernier, il y a un café souverainiste qui a ouvert à Montréal sur la Plaza Saint-Hubert, qui est une artère commerciale, et donc c'est un lieu de rassemblement qui a été ouvert par des jeunes qui se veut une espèce de tiers-lieu pour parler d'indépendance, parler de ces combats-là, parler justement un peu d'intersectionnalité aussi dans ces combats-là. Donc on voit aussi ce mouvement souverainiste qui est peut-être un peu plus ouvert sur le monde, un peu plus ouvert que le mouvement peut-être plus traditionnel des années 80, qui était peut-être un peu plus nationaliste, identitaire. Donc, et on voit aussi, ça sera l'autre défi du mouvement souverainiste du Québec, d'allier justement à la fois des souverainistes qui sont plus de droite, identitaire, des souverainistes qui sont plus de gauche, qui veulent faire, par exemple, je pense à Québec solidaire, qui dit qu'ils veulent faire l'indépendance pour avoir un pays écologiste, un pays féministe. Ce qui est difficile dans ce mouvement-là depuis des années, c'est de créer une alliance entre ces deux camps-là et se dire « Ok, on fait l'indépendance ensemble et ensuite on fera des élections, on aura nos divergences d'opinion. » Mais c'est difficile de rassembler tous ces gens-là autour d'un même projet. Donc, est-ce que ce sera possible? C'est à voir, mais il y a justement, en terminant, un groupe de jeunes qui s'appelle Oui Québec, qui est notamment derrière ce projet de café. Ils organisent à chaque année une fête nationale alternative lors de la soirée de la fête nationale du Québec, justement, qui veulent plus inclusive et plus vraiment... eux, ils sont vraiment indépendantistes, ils s'en cachent pas. C'est une fête qui fait la promotion d'indépendance du Québec pour eux. Ils font ça au Parc La Fontaine à Montréal et depuis quelques années, il y a vraiment plusieurs milliers de personnes. Ça prend vraiment de l'ampleur. Donc, on sent un engouement. Mais est-ce que l'indépendance du Québec, c'est pour demain? Probablement pas, mais ça va être à suivre. Et je pense qu'on a des années, en tant que journaliste, en tout cas, on a des années vraiment intéressantes à venir au Québec à surveiller ce mouvement, l'évolution de ce mouvement qui date des années 60, mais qui continue de perdurer.
Et est-ce que tu penses aussi que les deux mandats de Trump ont joué un rôle dans cet engouement nouveau chez les très jeunes générations qui sont le témoin des ravages que peut faire Trump aux États-Unis, de comment il peut être extrêmement agressif envers ses voisins, et que ça peut aussi expliquer pourquoi il y a de nouveau un fort engouement pour un Québec indépendant et moins lié à cette espèce de culture nord-américaine du Canada et des États-Unis?
Je dirais oui et non, parce que à la fois, ce que tu viens de dire peut être oui, un argument pour l'indépendance, mais c'est aussi beaucoup un argument que les fédéralistes sortent pour dire pourquoi on devrait rester dans le Canada. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui disent, avec Donald Trump à la tête des États-Unis, c'est pas le moment de devenir un plus petit pays, plus faible, sans armée, alors qu'on a des voisins aussi forts. Donc, oui, ça peut être une des raisons qui a poussé ça, mais c'est beaucoup aussi un contre-argument qui est utilisé, notamment qui a permis à Mark Carney d'être réélu à la tête du Canada et qui dit qu'on a besoin d'un Canada qui est stable, que c'est pas le moment de faire justement des folies ou de se diviser, alors que notre voisin est si dangereux que c'est le moment d'être uni. Et donc, j'ai l'impression que il y a ces deux choses-là qui sont en contradiction, qui arrivent un peu au même moment, mais il y a, oui, une forte hausse de la souveraineté chez les jeunes, mais il y a aussi, j'ai vu l'hiver dernier, quand Donald Trump vraiment imposait des tarifs au Canada, quand il y a eu une guerre commerciale, on a vraiment senti que le Canada se soutenait. J'ai jamais vu autant les Québécois soutenir le Canada et avoir une espèce d'unité et vouloir... après, même si le Québec reste un pays, je pense que le Canada restera un grand allié pour le Québec, mais je pense quand même que Donald Trump n'aide pas nécessairement la cause souverainiste. Justement, c'est une question qui a beaucoup été posée à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le leader du Parti québécois. Lui, il a dit « Bon, on pourrait attendre à la fin du mandat de Trump pour faire un référendum si nous, on est élus pour 4 ans. » Mais c'est sûr que Trump rajoute une incertitude qui fait que je pense que certaines personnes seraient peut-être moins enclines à faire des grands changements géopolitiques, sachant que c'est lui le voisin, parce que le Québec, si ça devient un pays, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de... Voilà, ça devient autre chose. Mais... est-ce qu'il y aurait moyen justement d'avoir un pays qui est, comme tu le dis, plus différent de ce modèle nord-américain, d'être quelque chose d'un peu plus ouvert peut-être? Peut-être même membre de l'Union européenne, mais ça, c'est un tout autre débat. On n'embarquera pas là-dedans, mais ça a été une proposition qui a été faite, même que le Canada soit membre de l'Union européenne à cause justement de cette perte de notre allié du Sud, qui reste... un peu un allié stratégique, mais de moins en moins commercial et économique.
Après, on espère que Trump aura bientôt... dégager le plancher, pour ainsi dire, donc les choses rechangeront aussi.
Théoriquement, il n'y a pas le droit de faire un autre mandat, mais je dis bien théoriquement, parce qu'on sait qu'avec Donald Trump, toutes les règles semblent ne plus exister.
Merci beaucoup, merci Julien, pour cette analyse dans la politique actuelle québécoise. C'était passionnant. Donc on va se retrouver très bientôt pour le festival. Et d'ailleurs, on avait envie d'annoncer aux auditeurs, auditrices de Radio Barthes qu'on va tous les deux co-animer une table ronde pendant le festival. Donc ce sera le mercredi, la semaine prochaine, donc le 15 avril, de 17h30 à 18h30. Ça dure une heure et c'est une table ronde pour parler justement de le défi de la visibilité médiatique pour les petits festivals de proximité comme Vue du Québec.
Ouais, et puis de parler justement de la manière dont les médias peuvent faire rayonner ce festival-là, la manière dont ces petits festivals-là peuvent rayonner. Puis je pense que ça va être super intéressant parce que Vue du Québec, c'est quand même très connu, reconnu au Québec, même si ça se passe dans un milieu rural en France. Donc ça va être de discuter un peu comment est-ce que on est capable de faire rayonner des événements qui peuvent se passer justement dans des petites collectivités, mais à l'international. Ça devrait être passionnant. On a une brochette de panélistes, là, notamment des journalistes qui seront avec nous pour en discuter.
Pardon. Voilà, notamment une journaliste de Radio-Canada qui sera là, que je serais ravie de rencontrer.
Ouais, Hélène Faradji, qui est critique cinéma, qui est aussi programmatrice d'un festival de cinéma à Québec. Donc vraiment, ça va être intéressant. Et avec Hélène, mercredi, avant le matin, juste avant la table ronde, on va animer un atelier sur la critique de cinéma cinéma. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à développer cet art, ben, vous pouvez vous inscrire et vous joindre à nous. Je pense que ça va être vraiment passionnant.
Voilà. Et donc, tout est à retrouver dans le programme Vue du Québec, qui est super bien fait, qui est sorti. Là, il y a la brochure un peu partout en ville. Si vous voulez en trouver, vous pouvez aller dans tous les commerces, même à Radio Barta, si vous voulez passer, il y en a maintenant.
Partout. Et sur le site web aussi, si vous êtes un peu plus loin de Florac, toute l'info.
Voilà. www.cinemaquébécois.fr. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve mardi prochain pour un prochain numéro. Salut!
Salut!
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi... et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.